Je suis prêt à parier que les deux sujets les plus populaires en termes de coaching sur Internet, c'est fort probablement la perte de poids et le gain d'argent. Donc, comment j'arrive à perdre du poids et comment j'arrive à faire plus d'argent, comment j'arrive à être dans l'abondance. Ben, c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, spécifiquement au niveau des croyances. Quels ont les impacts de nos croyances, de nos programmations mentales sur notre capacité à obtenir de l'argent, à créer de l'argent ou à attirer l'abondance en nous. Je parle de ça aujourd'hui avec Caroline Hull, coach PNL certifiée, spécialisée dans la reprogrammation mentale et particulièrement au niveau de l'abondance. Bienvenue dans Hypnoconscience. Pas mal tout le monde a envie de faire de l'argent, pas mal tout le monde a envie d'être riche, d'avoir les moyens de ses ambitions, les moyens de ses désirs et de ses rêves. Maintenant, on a beau essayer de rajouter des choses, il ne faut pas négliger l'impact de toutes nos programmations inconscientes sur la capacité qu'on a d'attirer et de créer l'abondance. Je t'en parle dans un instant avec Coach Caroline. Salut Caroline, je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui dans mon épisode de podcast. Comme je t'ai présenté un petit peu avant, je vais refaire quand même un petit wrap-up de ce que tu fais. Bon, à la base, tu es comptable, mais c'est pas pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, malgré que ça le sujet fait partie des chiffres aussi beaucoup. Mais d'abord et avant tout, tu es coach PNL. Spécialisé en réingénierie de l'architecture de nos programmations. Tu es aussi enseignante et praticienne de Magdalena Healing, je ne sais pas si je le prononce bien. Aussi, tu fais la distribution de bouteilles d'eau spécifiques. Tu auras l'occasion de me décrire un peu ce que c'est avec Home Light Living. Est-ce que j'oublie quelque chose?
Non, tout est là.
Tout est là. OK, parfait. Et juste comme ça, parce que j'étais curieux, c'est quoi ces bouteilles-là que tu distribues?
Ah ouais. En fait, c'est les bouteilles Home Water. Ce sont des bouteilles qui sont en verre, qui ont une vocation écologique puis spirituelle. Puis moi, je suis tombée là-dessus. J'ai été divinement guidée dans un restaurant au Portugal en mars 2019. Puis j'ai vu ces bouteilles-là dans ce restaurant. Puis je te fais ça en fast-forward. J'ai décidé de contacter les propriétaires des importeurs au Canada. Fait que ça fait 4 ans, en fait, que je suis l'unique importatrice et distributrice au Canada de ces bouteilles-là qui sont vendues en ligne puis à travers un réseau de détaillants. Puis leur propriété, c'est de changer la qualité vibratoire de l'eau, ce qui change aussi le goût.
Ah oui, ça change le goût aussi.
Ouais, ouais.
OK. Ouais. Donc, par exemple, ça goûte...
Ça goûte l'eau de source. C'est l'eau que tu mets de l'eau, tu mets de l'eau du robinet. On recommande de mettre de l'eau du robinet dedans, qui peut avoir été filtrée avec un filtre Brita si les gens préfèrent. Là. Mais une fois que l'eau est dans la bouteille, tous les symboles, parce que c'est une bouteille qui contient des symboles puis qui est créée avec une certaine forme spécifique, tout ça, ça s'active puis ça vient changer la molécule de l'eau. Si les gens sont curieux d'aller voir, de comprendre un peu comment la molécule de l'eau peut se transformer, il y a les recherches du docteur Emoto, un Japonais bien connu qui a fait énormément d'études sur l'eau, qui nous a démontré que quand tu exposes l'eau à différents environnements, le cristal de l'eau se transforme, la molécule se transforme. Fait qu'inspiré de ces recherches-là, la bouteille, elle a été conçue pour transformer la molécule de l'eau puis la ramener à son point neutre, son point d'origine.
OK. Ouais, sur le principe aussi avec les signes de la géobiologie, eux vont utiliser comme ça des formes géométriques ou des dessins qui vont jouer sur l'énergie. Bref, merci, mais c'est pas le sujet spécifiquement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on traite des croyances, mais des croyances particulièrement en lien avec l'abondance et je dirais encore plus particulièrement avec l'abondance financière. Mais c'est sûr, c'est pas tout le monde qui veut nécessairement l'abondance financière. L'abondance, c'est beaucoup plus large. Les croyances... mes auditeurs m'ont entendu en parler plusieurs fois. C'est quelque chose assez de base en thérapie, en coaching. J'aimerais que tu m'expliques, toi, pour toi, c'est quoi les croyances et quels sont les impacts des croyances dans nos vies?
Mm-hmm. J'aime beaucoup ta question parce que pour moi, dans mes observations puis dans les apprentissages que j'ai faits, tout ce qu'on croit, on le crée. Fait que, d'où l'importance d'être au courant de ce qu'on croit qui est vrai. De manière la plus simple possible, là, pour moi, une croyance, c'est une pensée que j'ai tellement répétée qu'elle a une charge émotionnelle.
OK.
Elle a une charge émotionnelle qui est favorable ou défavorable pour moi. Fait que j'ai tellement, mettons, pensé que c'était difficile de gagner de l'argent qu'à chaque fois que je pense ça, dans mon corps, j'ai un ressenti qui est pas cool. Puis comme j'ai un ressenti qui est pas cool, ça va venir impacter énormément de choses dans toute la suite de mes programmations, de mes actions conscientes et inconscientes, dans mes pensées, etc. C'est comme des règles de vie. C'est comme s'il y a des permis puis il y a des interdits à l'intérieur de nous. Puis, on a beau, à certains égards, faire certaines actions, s'il y a un interdit à un résultat, les actions, quand bien même qu'elles sont faites d'une manière impeccable, n'auront pas le même résultat parce qu'à la base, il y avait un interdit. Okay. Inversement, s'il y avait un permis à l'intérieur de moi, la même action qu'un autre aurait fait va donner des résultats parce que c'était permis. Nous sommes des êtres excessivement cohérents, même dans les aspects de nous qui nous nuisent. Puis ça, c'est ce que je trouve magnifique de la nature humaine, ouais. C'est toute la grande cohérence. Alors, l'importance de comprendre certaines de nos croyances, puis juste de comprendre le principe que tout ce qu'on pense qui est vrai, on va le créer dans notre vie.
Mais c'est subtil, ça. Je veux dire, tu viens de dire, quelqu'un fait exactement les mêmes actions, il va obtenir du résultat, puis pas l'autre. Comment tu peux vraiment expliquer ça dans le concret? Parce que je veux dire, on va comprendre que quelqu'un qui a une pensée très à l'idéologie matérialiste, là, que nous ne sommes que des cellules, va dire, ben non, ça fait pas de sens. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc, si tu fais la même action, tu devrais obtenir le même résultat.
Ouais. Ben, il y a des lois qui gouvernent notre magnifique planète, là. Une des premières lois qu'on enseigne, qu'on apprend quand on est petit, hein, on échappe de quoi, puis ça tombe à terre, on apprend la loi de la gravité. Elle est facile à comprendre parce que nos yeux, nos oreilles, notre corps peuvent en être témoins. On a des sens pratico-pratiques pour nous dire, ah ouais, elle existe vraiment la gravité. Mais il y a d'autres lois qui sont beaucoup plus subtiles, et là, les définitions vont varier énormément. Mais je vais te nommer la loi de la résonance. La loi de la résonance, c'est qu'on va voir, on va entendre, on va ressentir des choses en résonance avec ce qu'on croit, avec ce qui est important pour nous. Fait que si je fais une action, supposons toi et moi, on est en affaires tous les deux, on est des professionnels, on rencontre des clients, on génère des revenus, autrement dit, on va faire ça bien, bien simple, on est tous les deux travailleurs autonomes. Fait qu'il y a une partie de notre travail qui est vendre, c'est-à-dire attirer, convertir, faire la vente, livrer le service, service après client, on fait tout dans nos entreprises. Mais s'il y a des parties de notre travail avec lesquelles on n'est pas confortable, quand, par exemple, je fais une action, mais je ne suis pas en résonance avec mon action, à l'intérieur de moi, je ne suis pas en résonance avec, bien, c'est comme si j'avais deux aimants dans le fond qui se repoussent. Là, devant moi, pour les gens qui ne voient pas, j'ai deux aimants. Quand deux aimants s'attirent, la résonance, c'est que deux aimants vont se coller. Là, on l'entend? Ça, c'est le son des aimants. Mais si je ne suis pas en résonance avec une action, c'est comme si je repousse. Ça a un effet de repousser plutôt que d'un effet d'attirer. C'est pour ça que des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, par exemple, de rencontrer, d'avoir des clients avec toi avec lesquels tu étais en résonance dans le sens où cette personne-là vivait quelque chose puis toi aussi tu le vivais. Fait que ça fait que tu le sens dans toi ce que l'autre personne a vu parce que tu es en résonance avec. T'as beau faire les mêmes actions puis dire les mêmes paroles que t'aurais dit à quelqu'un d'autre, ça aura pas le même effet parce que t'es en résonance. Fait que c'est pas un absolu
ça
dans le sens que...
Ça fige un petit peu, je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne.
Ah, moi je suis pas figée, mais toi t'es figée.
OK, ouais, toi t'es figée. En tout cas, de toute façon, on va continuer. Peut-être que c'est l'enregistrement fait sur la plateforme qui fait que ça lag et non pas l'enregistrement Internet en tant que tel. Est-ce que à travers ça, dans cette explication-là, parce que mon objectif, c'est toujours que l'auditeur qui m'écoute là arrive à vraiment comprendre, et souvent on sait que quand c'est de la théorie, ouais, c'est pas très clair. Est-ce que tu es capable de me donner spécifiquement des exemples, par exemple, de croyances que tu vois en coaching ou que tu as vues sur soit l'argent ou l'abondance? Qu'est-ce qui en a découlé de cette croyance-là? Puis une fois transformée, quel impact ça a eu exactement?
Ouais. Fait que, bien concrètement, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs qui ont à présenter leurs produits et leurs services. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de déranger. Hein, ils ont peur que si ils font une publication sur un produit, un service, une promotion, ou ils font une série d'infolettes, par exemple, puis ça va déranger les gens vont se désabonner, ils vont passer pour des maudits achalants. Fait que quand tu as la crainte de déranger, puis tu fais des ventes,
je l'ai,
mais
mettons, moi, ça.
Tu l'as. Puis là, tu t'es fait un objectif, mettons, tu as besoin, tu veux générer X, Y revenus dans le mois parce que c'est un objectif qui te convient. Bien, d'un fois, de manière très, très, très subtile, tu vas peut-être skipper, excusez le terme anglais, là, mais tu vas peut-être, tu avais prévu d'envoyer 5 courriels parce que 5 courriels de rappel parce que tu fais un lancement. Bien, peut-être que tu vas en faire juste 3. Mais Colin, c'est le 4e qui aurait fait une différence ou c'est le 5e qui aurait fait une différence pour la personne qui attendait peut-être le dernier rappel final, attention, les portes ferment dans 5 minutes. Okay. Et quand on a la peur de déranger, en pratique, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Tu sais, dans l'absolu, c'est quoi la différence entre 3 et 5 courriels? Bien, 5 courriels, c'est 2 chances de plus de conclure des ventes puis d'aller chercher des nouveaux clients que 3. Fait que la personne après se dit, ben, pourtant, j'ai tout fait puis j'ai pas vendu beaucoup. Ou t'as-tu vraiment tout fait? Ou il y a une partie de toi qui t'a empêché parce que t'as la croyance que t'étais pour déranger. Donc, tu t'es empêché de faire toutes les actions possibles. Fait que tu t'es limité dans les actions. Même si si tu fais 80%, c'est pas 100%. 80%, ça sera jamais 100%. Puis 90, c'est pas 100% non plus. Est-ce que je réponds bien à ta question ou est-ce que mon exemple est pertinent?
Oui, ben c'est un exemple, entre autres, qui est très dans le concret. C'est-à-dire que ta peur, ta croyance que tu déranges, t'amène inconsciemment à skipper, comme tu dis, ou à sauter certaines actions qui auraient fait toute la différence et ça peut être très subtil. Ouais. Moi, si tu permets, je vais en rajouter une. Mienne, un peu que j'ai faite avec toi, parce que oui, on a beau être coach, thérapeute, c'est important de consulter aussi. Comme je dis souvent, ben on a la face collée sur l'arbre, puis c'est plate, mais on a besoin d'aide pour voir la forêt en général. Puis je fais une petite parenthèse, c'est que souvent quand les gens ça va mal dans leur vie, particulièrement au niveau financier, ben même quand ça va mal dans leur vie en général, le niveau financier va descendre. Et ce que les gens vont avoir tendance à faire dans les croyances populaires qu'on a, c'est de retenir l'argent, couper sur les dépenses. Et ça, je suis d'accord. Sauf que de consulter, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et quand on regarde les compagnies, quand ils vont mal, ils vont couper dans des dépenses qui rapportent rien, mais ils vont réinvestir plus sur ce qui rapporte. Donc, c'était juste ma parenthèse parce que moi, je voyais que j'avais des blocages. Je voyais que j'avais des problèmes d'impuissance. Là, on parle vraiment d'impuissance intellectuelle. Pas d'impuissance dans la chambre à coucher, mais de confusion sur ce que je voulais faire, de ce que je voulais vraiment offrir à mes clients, comment je voulais l'offrir, comment je voulais le présenter, tout ça. Et j'ai décidé de te consulter. Et derrière ça, ensemble, on a découvert une croyance qui était bien cachée derrière ce sentiment d'impuissance-là, qui était reliée à des blessures d'enfance que j'avais eues, quand même assez vieux, mais à l'école primaire. Bref, des difficultés scolaires m'ont amené à croire que j'étais pas bon, ce qui a joué sur mon parcours scolaire par la suite, et j'ai pas fait de hautes études. Et ce qui m'a créé une croyance que, étant donné que moi, j'avais pas fait de hautes études universitaires, ben, il y avait plein d'affaires qui venaient. Ben, je pouvais pas charger cher. Je pouvais pas être bon. J'avais pas la crédibilité de dire ce que je disais, etc. Donc, il y avait un paquet d'effets de ça. Et je savais pas que c'est cette croyance-là, quelque part, qui créait l'empilement, des choses qui suivaient après, soit la confusion, l'impuissance, je me souviens plus ce qu'on avait trouvé aussi qui était dans ça. Et juste le fait de modifier cette croyance-là avec les techniques que tu m'as apportées et d'installer à place, hein, parce que tu parlais de réingénierie, donc on enlève une croyance, mais on laisse pas vide, on met une autre croyance par-dessus, en mettant la croyance que même si je n'avais pas de hautes études universitaires, j'étais quand même crédible dans ce que je faisais, etc., C'est fou l'impact instantané en l'espace de quoi? Deux semaines? Une semaine, ça a eu sur ma capacité de passer à l'action, de voir clair dans ce que j'ai à faire, de faire dissiper le sentiment. Le sentiment d'impuissance devient quasiment un sentiment de dépression. Ouais. C'est fou, là. On se sent effondré au point de vouloir disparaître. Et ça a vraiment fonctionné. Donc, c'est l'exemple que je voulais donner aux gens, comment une simple croyance de « moi, vu que j'ai pas d'études universitaires élevées, ben je ne peux pas être crédible ou faire telle chose ». De ça découlait un paquet d'effets émotionnels qui me paralysaient. Ce qui m'amène à dire, et j'avais aimé, puis là, ceux qui écoutent au niveau seulement avec l'audio le verront pas, mais tu pourras l'expliquer, ceux qui vont le voir sur YouTube en vidéo, ben ton petit jouet Fisher-Price là pour les bébés, qui explique bien l'empilement, tu sais, les anneaux de différentes grosseurs qu'on met une par-dessus l'autre. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment ça fonctionne, l'impact de ma croyance, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a créé, l'autre a créé quoi, et etc.
Là, juste avant qu'on poursuive, là, l'anneau du dessus, j'ai pris une version de luxe. Alors, il y a des petits jouets dans l'anneau qui font gling, 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 gling. Je vais les enlever juste pour pas que ça agace le son, mais on comprend le principe, on va comprendre le principe quand même. C'est que pour moi, j'utilise cet anneau-là pour démontrer que une série, un système, il y a plein de systèmes à l'intérieur de nous, puis ils s'appuient sur des croyances. OK? Fait qu'imaginons la croyance qui est ici. Pour toi, c'était parce que j'ai pas fait des hautes études. C'était quoi déjà?
Oui, parce que j'ai pas de hautes études universitaires, mais juste pour faire une image à ceux qui l'écoutent seulement en audio, c'est le fameux jouet vraiment pour bébé Fisher-Price qui est des anneaux de grosseur, bon, plus grosse allant de plus en plus petit, qu'on enfile sur une espèce de pommeau qui lui aussi est plus gros à la base que sur le dessus, ce qui fait que ben, tu peux pas, t'as pas le choix de suivre les grosseurs. Tu peux, si tu mets une plus petite, ben l'autre, il embarque pas. Ou à l'inverse, si tu n'enlèves pas la petite, la grosse, tu peux pas l'enlever.
Oui, c'est ça. Fait que l'enfant, il apprend que s'il veut aller enlever la dernière, donc l'anneau qui est le plus bas, le plus gros, il faut qu'il enlève toutes les précédentes pour aller au creux. C'est ça ici. Puis c'est l'analogie parfaite pour expliquer, Pascal, puis sûrement que tu l'as observé toi aussi avec tes clients, c'est que des fois... ce qu'on voit sur le dessus, c'est le comportement. T'sais, on va voir des habitudes, des comportements, puis c'est très, très en surface. Mais on peut changer juste le comportement, mais c'est possible qu'on n'a pas complété la transformation parce que tout est, dans le fond, il y a des anneaux plus bas qui font qu'il y a des couches. Plus tu descends dans le niveau, plus tu vas bas, plus c'est des couches qui peuvent être même pas dans le champ de conscience de la personne. Notamment les croyances. Les croyances se situent dans le champ pas conscient jusqu'à ce qu'on en devienne conscient. Puis quand on en devient conscient, après ça, on comprend l'impact que ça a, comme l'effet que ça a eu sur toi. Alors, si on revient au fond, puis peut-être, je me permets, je vais juste tous les retirer. Fait que là, je les ai dans une main, l'empilade d'anneaux, puis j'ai juste la base, la tige dans l'autre main. Puis pour moi, ça représente, la tige comme telle, ça représente notre nature profonde, l'être que nous sommes, dénudé, autrement dit, comme on vient au monde. Tu sais, on va venir au monde avec déjà une certaine, on va dire une certaine personnalité, ou plutôt une certaine nature, comme il y a des bébés qui sont super actifs, il y a des bébés qui sont plus tranquilles, il y en a qui sont curieux, il y en a qui sont plus explorateurs, peu importe. Fait que ça, c'est notre nature profonde, puis au fil des années, ben, on a créé, dans le fond, un système de protection, un système de survie qui fait en sorte que notre nature profonde, elle est encore là, elle disparaît pas du tout, mais elle est couverte par des couches d'aspects qui ne sont pas notre vrai nous. C'est comme cette croyance-là que tu croyais, Pascal, puis chaque croyance qu'on croit, c'est pas nous. C'est une pensée qu'on a tellement pensée qu'elle a laissé une marque à l'intérieur de nous, puis cette marque-là, elle nous gouverne en quelque sorte. Elle prend le dessus sur nous. C'est elle qui conduit jusqu'à temps qu'on se dise « Wow, ta minute, je ne veux pas me laisser conduire par une croyance. C'est pas ça ma vie. Moi, dans ma nature profonde, si je reviens par exemple, dans ma nature profonde, je veux l'abondance, je veux goûter à tout ce que la vie a à m'offrir, je veux explorer le monde, je veux m'explorer moi, je veux vivre toutes sortes d'états pour choisir lequel je préfère, incluant l'abondance financière. J'ai le droit, j'ai le goût, puis j'ai le droit d'aller explorer ça. Ça fait partie de ma nature profonde. Par contre, si je me suis créé un réseau, un système, on n'a pas fait ça volontairement pour s'emmerder, puis pour se créer, dans le fond, des problèmes et de la souffrance.
Oui, oui, non, on le comprend. C'est relié à ce qu'on a vécu. Ouais, c'est relié à ce qu'on a vu, c'est relié aux émotions qu'on a eues, etc.
Mm-hmm. C'est ça. Fait que cette empilade-là, au fond, si on commence avec une croyance, pour moi, là, la manière que je l'explique puis je le visualise, la base, c'est toujours une croyance. Fait que là, ici, on était pour toi, parce que j'ai pas de hautes études, je suis pas crédible dans ce que je fais.
Ouais.
En gros. OK? Fait que ça peut amener une croyance secondaire. Par exemple, ça donne rien de publier parce que de toute façon, je suis pas crédible, ou ça me donne rien d'afficher ça me donne rien d'expliquer quelque chose ou d'offrir une perspective parce que je manque de crédibilité. Fait que là, tu sais, les anneaux, on pourrait en avoir 50 empilés un après l'autre. Ouais. Un modèle simple ici. Fait que tout de suite, ça peut être une croyance secondaire qui vient s'appuyer sur une croyance principale. Ou ça pourrait être directement de l'émotionnel qui est devenu un schéma. Comme toi, ça crée beaucoup de confusion parce qu'une partie de toi, ta nature profonde, elle a le goût de servir des clients. Ta nature, t'as le goût d'aider le monde. T'es un gars qui aime jaser avec le monde. T'as de l'entre-gens. T'es talentueux dans ce que tu fais. T'es bon dans ce que tu fais. Puis t'as l'élan d'aller aider le monde. Ça, c'est ta nature profonde. Mm-hmm. Mais ici, il y a quelque chose qui dit, mais t'as pas le droit de faire ça. Fait que c'est sûr que ça crée de la confusion.
Ouais.
Ça crée de la confusion parce que t'es tiraillé entre ce que tu veux vraiment, puis un frein à l'intérieur de toi ou une affaire qui te tire par en bas, comme si t'étais une montgolfière puis un sac de sable qui a été lancé, fait que là, whoop, l'élan, il est un peu freiné. Ça crée de la confusion. Fait qu'il y a peut-être une croyance secondaire ici, puis peut-être que la confusion, elle se situe à ce niveau-là, peu importe, c'est pas ben important. Mais le niveau, après ça, c'est les actions. S'il y a de la confusion parce que tu penses que de toute façon, ça donne rien de parler ou d'informer les gens parce que de toute façon, t'es pas crédible parce que t'as des hautes études, ça se peut-tu que tu vas remettre à plus tard tout ce que ouais. t'aurais pu faire? Tu sais, ça ouais. se peut qu'il y a de la procrastination aussi, ou ça se peut que t'écrives un texte, mais volontairement, tu vas l'écrire vite puis tu vas, sans faire exprès, là, peut-être skipper des bouts qui auraient été importants ou faire des fautes dedans.
C'est exactement ce qui arrivait, en fait. Un, j'avais beaucoup de procrastination. Deux, je tournais souvent les coins ronds. Ce qui venait justement à l'inverse, parce que ma croyance aurait dû me dire, ben fais plus de recherches, puis assure-toi de bien faire ça, puis assure-toi de corriger tes fautes pour avoir l'air de quelqu'un qui a fait des études. Mais comme ma croyance me disait, t'en as pas fait des hautes études, donc, ben inconsciemment, c'est comme si je me sabotais, je tournais les coins ronds.
C'est ça. Et puis moi, j'aime ça dire qu'il n'y a pas vraiment de saboteur, parce que tu vois-tu toute la cohérence de ça ici, là?
Mm-hmm.
Tu sais, le fait de procrastiner, c'est saboter par rapport à ton essence, parce que ton essence, elle a l'envie. Ouais. T'es venu pour whatever reason, là, je sais pas quelle raison, mais t'as l'élan pis t'as le goût de faire ce que tu fais dans la vie, sinon tu le ferais pas, tu ferais d'autres choses. Fait que le fait de procrastiner, ça sabote pas, ou en tout cas, ça ralentit ce que ton essence veut vraiment, mais c'est complètement cohérent avec la dictature de la croyance.
Avec la croyance, c'est ça.
C'est ça. Fait que moi, j'aime toujours parler qu'un saboteur, c'est on peut leur virer de bord puis voir, non, au contraire, ça, c'était en charge de garder ça intact, tu comprends? Le fait de procrastiner garde toute la structure intacte, parce que si t'arrêtes de procrastiner, oups, tu commences à exposer les choses, fait que tu commences à exposer la croyance. Puis ici, je vais la remettre temporairement, la dernière, qui a des petits grelots, c'est que tout ça, il n'y a rien de tout ça qui peut se transformer tant et aussi en tant que tu juges. Sur le dessus, c'est la couche de jugement.
OK.
Et aussi longtemps que, par exemple, tu te juges de procrastiner, imaginons que la deuxième, c'est la procrastination, parce que tu manques de clarté, parce que tu penses que ça donne rien, parce que de toute façon, tu n'as pas fait des hautes études. Si tu te juges tout ça, c'est comme le verrou.
C'est verrouillé. OK. C'est le principe de l'enfant que s'il ne peut pas enlever la dernière s'il n'a pas enlevé la première.
Exact. Fait que la première étant, dans la façon dont moi j'aime le voir puis l'expliquer, le jugement. faut que je commence par arrêter de juger. C'est une structure qui a été mise en place pour me rendre service un jour dans ma vie. Là, présentement, elle ne me sert plus. Fait que c'est à moi de faire de quoi avec ça. Mais la structure, elle a été mise en place un jour, elle m'a servi. Okay? Fait que j'arrête de juger le fait qu'elle est en place, la structure, elle a eu son utilité. Qu'à partir du moment où j'arrête de juger, là, j'ai accès à commencer à creuser et à mettre le doigt sur ce qui compte vraiment.
Fait que donc, me juger, c'est me culpabiliser. Parce que si je juge que j'ai fait de quoi de mal, je suis coupable de. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est arrête de te culpabiliser de ça, de te juger, deviens juste responsable de, puis passe à l'action. Comprends que ça s'est construit, puis tu peux le déconstruire à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Puis le mot que j'aime beaucoup utiliser, moi, c'est optimiser. Parce que l'aspect de nous qui est programmé, là, qu'on appelle la personnalité ou qu'on appelle l'ego, peu importe, c'est un aspect qui est au service de l'essence. Okay? Fait que quand je me rends compte qu'il n'est pas optimal, j'ai juste à faire des ajustements dedans. Moi, j'aime pas dire le mot travailler sur quelque chose parce que ça m'apparaît pénible et lourd. J'aime mieux optimiser. Comme on optimiserait le fonctionnement de n'importe quel appareil qui a une mécanique dedans, là, on va ajuster une petite, un petit coup de tournevis ici, on va mettre un petit peu d'huile là-dedans. Comme je viens d'avoir une image d'une horloge grand-père, tu sais, quand on ouvre la porte et on voit tous les beaux mécanismes en dedans. Ben, l'horloger, il a optimisé son horloge jusqu'à temps qu'elle marche bien, qu'elle fasse ce qu'elle est supposée de faire. Fait que le jugement, c'est bien important d'arrêter ça parce que ça donne rien de se juger, c'est contre-productif. Ça maintient en place la structure, c'est tout ce que ça fait.
Okay.
C'est
comme puis le virus. Après ça, une fois que je réalise ça, j'arrête de me juger. Okay. C'est quoi l'étape suivante? Oui. C'est de trouver la croyance, c'est d'identifier les comportements.
Ben, c'est tout ça. C'est de regarder à quoi c'est connecté. Il y a des personnes qui vont arriver à le faire seules, des personnes qui sont habituées de faire beaucoup d'introspection, ou des personnes qui ont lu des livres, puis des personnes qui ont peut-être déjà assisté à des conférences, des ateliers, puis là, ils vont dire « Ah oui, j'ai déjà eu un truc là-dessus, je vais ressortir ce que j'avais eu comme truc. » Fait qu'on peut s'auto, dans le fond, découvrir le mécanisme où on peut aller se faire aider pour ça. C'est pour ça que des gens comme toi puis comme moi, on existe. C'est pour aider des personnes à avoir cette perspective-là qui est difficile à avoir par soi-même.
C'est très difficile, effectivement. Moi, je le dis souvent. Mon objectif est toujours de rendre les gens le plus autonomes possible, ce qui fait que quand je les reçois, j'enseigne autant. Mais même avec tout le bagage que j'ai, c'est pas pour rien que je t'ai consulté, que j'ai déjà consulté d'autres mondes. Selon moi, c'est impossible d'arriver à tout trouver soi-même parce qu'on le dit, c'est inconscient. Et souvent, c'est à travers la parole qu'on le voit beaucoup en PNL, là, programmation neurolinguistique, c'est beaucoup à travers les mots et la parole. Et pour ça, étant donné que toi, tu y crois, quand tu vas le dire, ça va te paraître normal. Mais l'autre qui t'écoute, comme par exemple moi, quand j'écoute un client ou toi, nous autres, ça fait zzz, ça griche. Parce qu'on n'a pas la même croyance. Fait que c'est facile de lever la main et de dire hey, répète ce que tu viens de dire là, puis pense-y 30 secondes. Ça fait-tu du sens? Puis un coup que tu arrêtes la personne à ça, la personne a dit ben, si elle y croit vraiment, tu peux lui donner des exemples. Oui, mais pourtant, toi, tu dis que c'est ça, mais telle personne, c'est pas ça. Fait que là, ça fissure tranquillement l'idée de dire ouais, c'est peut-être une croyance que j'ai, puis on peut après ça se questionner, veux-tu la garder ou pas? Es-tu aidante ou limitante? Ouais. Mais vraiment d'avoir l'oreille extérieure, je pense que il vient un moment dans la vie où t'as pas le choix. Si tu veux vraiment avancer, ça te prend le coup de main d'une oreille expérimentée.
Je ne saurais dire mieux, mon frère.
Puis d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, de plus en plus en développement des affaires, alors qu'avant, il y a plusieurs années, on utilisait juste le marketing, le coaching en marketing, puis la vente, puis ces choses-là. Mais de plus en plus, on voit le coaching de développement personnel entrer dans les entreprises. Mm-hmm. Et d'ailleurs, tu peux m'en dire un peu plus, parce que tu me disais que ça faisait partie de certains de tes clients, ça.
Oui, effectivement. Je coach des entrepreneurs, puis je coach toute personne, en fait, qui a envie de revoir son architecture pour être plus efficace, plus de satisfaction, mais au niveau corpo aussi, je suis appelée à créer des ateliers beaucoup sur la communication et le leadership, mais aussi à coacher des gestionnaires, des gens qui ont des rôles clés dans des entreprises, pour qu'ils soient à l'aise avec eux, justement, parce que quand on est quand on est 100% à l'aise avec soi, là, qu'on s'accepte tel qu'on est, puis qu'on s'aime. Là. Tu sais, c'est un gros mot, s'aimer. Il y a de la misère que, il y a des gens qui ont de la misère à dire je m'aime. Mais mettons s'accepter déjà, l'étape s'accepter. Quand tu gères une équipe de personnes, si toi-même tu ne t'acceptes pas, comment est-ce que tu peux accepter les autres? Puis comment est-ce que tu peux contribuer à ce que les autres se sentent bien dans leur rôle? Alors, oui, c'est rentré dans les entreprises. Heureusement, les dirigeants, les ressources humaines ont commencé à comprendre que c'est important d'accompagner les personnes. C'est beau les grosses formations de groupe là, que tu prends la moitié d'un étage au complet puis tu les envoies dans une salle de conférence pour 2 heures pour leur apprendre quelque chose, mais ça peut être excessivement bénéfique pour du savoir-faire. Mais pour le savoir-être, l'accompagnement personnalisé, c'est bien ben dur à battre en termes de
effectivement, parce que tu as beau le savoir, c'est ma phrase fétiche, moi, savoir ne suffit pas, tu as beau apprendre des choses, tu as beau savoir qu'une croyance, ça fait ça, tu as beau savoir même que tu as telle croyance, si c'est pas intégré, si c'est vrai, c'est pas optimisé, mettons, au lieu de travailler de façon à ce que vraiment tes schémas neuronaux se transforment, ben, t'auras jamais les comportements, les réactions émotionnelles, les capacités, hein, si on prend la pyramide de Dilts, qui vont aller avec. Fait qu'au final, t'en auras pas de résultats. Ça me fait penser beaucoup aux gens qui font énormément de développement personnel, puis ils viennent me consulter dans mon bureau, on touche quelque chose, ils se mettent à pleurer, ils disent « Mais là, voyons, ça fait des années que je pensais avoir réglé ça. » Ils l'avaient compris dans leur tête. Ils savaient qu'il y avait ce problème-là, mais ils ne l'avaient jamais réglé parce qu'ils n'avaient pas été jusque à déprogrammer fondamentalement ce qui était nuisible et à reprogrammer quelque chose de nouveau, mais de façon répétitive. Parce qu'on sait que c'est souvent l'émotion et la répétition qui font qu'on change des schémas neuronaux par rapport à ça.
Puis c'est bien ce que tu as dit parce que comprendre avec notre tête, c'est bien. Ça, c'est un des 3 centres intelligents du corps qui a compris la tête. Mais si tout se passait là, à la quantité de réflexions qu'on a dans une journée puis de pensées qui nous traversent l'esprit, on aurait tout réglé.
Ouais.
Les croyances, ça se situe au niveau, c'est imprimé dans notre corps. Le bagage, la mémoire des croyances est imprimée dans notre corps. Fait que c'est pour ça que des fois, on a réfléchi à quelque chose, on a conscientisé quelque chose, mais l'émotion est restée stockée dans le corps parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que la réflexion n'est pas devenue une action.
Mm-hmm. Ouais. D'ailleurs, tu offres avec ton Facebook et tout ça, je ne sais pas si je peux le dire, ton groupe, tu offres un programme, là, si on veut, une technique de déprogrammation de croyances. Exact. Où tu utilises, et je crois, l'énergie, le corps, les émotions. En fait, nomme-moi donc les 3 intelligences que tu as dit. Il y a l'intelligence intellectuelle.
Ben, le centre. Oui, pour moi, tu as le centre mental, donc l'énergie cérébrale, tu as l'énergie du cœur, qui à elle seule est très, très, très transformatrice, puis tu as l'énergie du corps, qu'on pourrait dire qui est située dans la bédaine, là. C'est pour ça qu'en anglais, on dit le gut feeling, ça c'est le centre instinctif, puis c'est comme c'est à ce niveau-là que les croyances sont enregistrées. Le centre instinctif, c'est le plus vieux centre qu'on a, t'sais, dans la biologie humaine, là, qui correspond au cerveau reptilien. Fait que lui, quand il a décidé que quelque chose était vrai, il y tient. Hein?
Ouais, c'est relié littéralement à sa survie, là, c'est ça.
Ah, oui, oui. Fait que c'est pour ça que la méthode que j'enseigne dans mon groupe DP pour des programmations profondes, on utilise beaucoup, beaucoup de méthodes où est-ce qu'on se touche. On touche, t'sais, on fait du tapping, on se touche à différents endroits du corps pour être capable de venir déloger la charge émotionnelle. Une fois que la charge émotionnelle d'une croyance est délogée, ça devient une phrase banale. Elle ne te fait plus rien, la phrase.
Mm-hmm. C'est ça. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'association émotionnelle avec l'idée, ni de réaction physique.
Ouais,
puis ensuite de ça, on voit.
C'est ça. Ouais.
On voit après
ça. C'est pour tout type de... Pour tout type de croyances, dans le fond, là, tu voulais qu'on parle de l'abondance, bien... Tout genre de croyance, c'est toute une charge émotionnelle, puis il y a un enregistrement dans notre corps à quelque part. Moi, j'imagine tout le temps que c'est des petites cassettes. Tu sais, comme toi puis moi, on a à peu près le même âge, mais quand on était jeune, on écoutait de la musique sur des cassettes. Bon, les jeunes qui nous écoutent, ça, c'est un objet qui est en voie de dispersion.
Pas qu'il a disparu, ça fait longtemps.
Ouais, il y en existe dans des musées.
Ouais, c'est ça.
Puis pour moi, il y a des petites cassettes sur lesquelles on a enregistré des grandes vérités, qui sont juste des vérités enregistrées, ça veut dire que c'est des vérités absolues, puis qui sont logées dans notre corps. Puis les croyances par rapport à l'abondance ou la difficulté qu'on a de vivre de l'abondance, la contrepartie de ça, c'est parce qu'on croit que le manque existe.
Ouais, déjà en partant.
Déjà en partant, quand on croit que le manque existe, ben on va se créer des, on va contribuer à créer par nos actions conscientes et inconscientes des expériences de manque d'abondance. Parce que l'abondance, c'est quelque chose qu'on peut décider. On peut décider que 5 $, c'est abondant, puis on peut décider que 3 millions, c'est pas encore abondant. C'est
Effectivement,
un
j'ai déjà
feeling.
lu ça à quelque part, quelqu'un qui, quand il tombait en bas de 2 millions de dollars dans son compte, il commençait à en faire de l'anxiété, alors que la
Ouais.
majorité d'entre nous, on serait d'un
On
calme.
sera encore sur le party.
C'est ça. Mais justement, juste pour le bénéfice, de l'auditeur qui m'écoute, j'aimerais que tu nommes des croyances en lien avec l'abondance, ceux que tu vois le plus souvent, que tu entends le plus souvent, puis on va laisser juste un peu de temps. Et ce que je donne comme devoir, si on veut, à l'auditeur qui écoute, fais juste ressentir. Est-ce que quand tu entends ça en dedans de toi, comment dire ça, ton corps te dit oui ou il dit non? Et je dis ressentir parce que très souvent, quand je dis à des gens, tu crois-tu, moi, c'est parce que je fais beaucoup d'accompagnement, de couple ou avec des femmes qui ont des problématiques, relationnelles ou dans l'intimité. Et par exemple, je vais dire, penses-tu qu'une femme a le droit de s'épanouir sexuellement? Et là, tout de suite, ils vont me dire, ah ben oui, puis j'en ai un, puis ils sont convaincus de ça. Et quand je leur dis, puis je dis, ressens-le dans ton corps, j'en ai vu qui se sont mis à pleurer, puis qui ont dit, hey, non, ce qui monte, là, c'est qu'une femme qui aime le sexe, c'est une salope. Fait que là, ah, j'y vois-tu? Dans ta tête, tu as une croyance X que tu veux avoir, que tu as entendue, mais dans ton corps, dans tes émotions, la croyance que tu portes, c'est celle que ta mère t'a donnée. Et c'est elle qui est la plus importante. C'est pour ça que quand tu vas les nommer, j'invite l'auditeur à vraiment juste ressentir dans son corps, est-ce que ça dit oui ou ça dit non?
C'est un bel exercice. Pour moi, là, la base, avant de nommer des croyances que j'ai entendues beaucoup, je vais faire ça dans quelques secondes.
Oui.
La base, là, c'est la super croyance à la base de tout ça, c'est le manque existe. Puis, ce que j'aime beaucoup dire, ce que j'aime beaucoup dire, c'est imagine-toi, là, chaque personne qui écoute, si vous avez l'impression que le manque existe, ce que ça peut faire à l'intérieur de vous, c'est que soit que vous observez que l'abondance ne vient pas à vous facilement, peu importe la forme d'abondance, mais disons abondance financière parce qu'on est plus dans le thème des finances, ou qu'au contraire, parce que vous croyez que le manque existe, vous allez surconsommer plein de choses pour ne pas sentir l'effet du manque. On peut prendre deux directions différentes quand on croit que le manque existe. On va se le prouver en sans faire exprès, créant des expériences de vie qui nous amènent à conclure effectivement le manque existe parce que je vis très peu d'abondance. Ou on va se créer des expériences de vie qui vont générer énormément d'abondance pour ne pas ressentir le vide ou le manque qu'on a décidé qui existait à l'intérieur de nous. Mais pour chaque personne qui écoute, imaginez-vous, là, puis là, ça peut être un petit peu morbide, bizarre, mais imaginez-vous là, que vous êtes décédé, puis là, on fait une autopsie sur vous, puis on vous ouvre en deux. Pensez-vous que le médecin légiste va trouver des bouts qui manquent à l'intérieur de vous? Personne. Personne ne va avoir des bouts qui manquent. Même si vous manquez un organe parce que vous êtes fait enlever la vésicule biliaire, le corps a repris, les organes se sont étendus, puis les autres ont juste pris plus de place. Okay? Le foie, là, il s'est élargi, le pancréas, whatever. Personne n'a de manque à l'intérieur. Ça n'existe pas, le manque. On peut vivre avec une impression que ça existe, mais ça n'existe pas. Donc, à partir de là, une fois qu'on a compris que le manque n'existe pas, c'est quoi, dans le fond, tu veux que je nomme des croyances qui
Ouais,
font que
juste
les
comme
gens
ça,
se déclarent
des
abondants?
croyances, comme moi, c'était, vu que j'ai pas fait de hautes études, ben, il y a telle chose, mais d'autres, ça peut être familial, d'autres, tu sais, la fameuse croyance, née pour un petit pain, qu'on entend beaucoup au Québec, etc.
Celle que j'entends le plus, c'est que c'est mal de vouloir l'abondance financière. C'est mal de vouloir l'abondance financière. J'avais passé pour une personne cupide, une personne qui n'a pas de conscience, une personne qui n'a pas de morale. Je vais devenir une mauvaise personne. Je vais me mettre à vouloir avoir du pouvoir sur les autres, à abuser des autres. L'argent va me transformer d'une manière abominable.
Très catholique ça, comme...
Notamment comme... l'éducation judéo-chrétienne. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes dont il y a une petite partie d'eux. Elle peut être très petite, la partie, mais avoir un gros microphone, fait qu'elle parle dans son microphone. Tu sais, les styles, comme la police, des fois, ils disent « Rangez-vous! » Bon, tu peux avoir une petite, petite, petite partie de toi, mais avec un microphone branché sur des gros speakers, là, qui te dit dans l'oreille « C'est mal de vouloir l'abondance financière. C'est mal. » Pourquoi? Parce que si je vis dans une énergie de manque, ça sous-entend que si moi j'ai de l'abondance financière, j'en enlève à quelqu'un. Et je ne veux pas être une mauvaise personne. Donc, je ne veux pas en enlever à personne. Tu comprends-tu pourquoi j'ai dit que la racine de ces croyances-là, c'est l'énergie du manque?
Oui, effectivement. Comme s'il n'y en avait pas pour tout le monde.
C'est exactement ça. Parce que regarde bien, puis je pose la question à tout le monde, puis Pascal, je pense que je t'avais déjà posé, mais je ne suis pas certaine, mais si j'enlève, puis réfléchis pas avec ta tête, réfléchis avec ton cœur. Si j'enlève toute l'abondance de l'abondance, qu'est-ce qui reste?
Si tu enlèves toute l'abondance de l'abondance.
De l'abondance, qu'est-ce qui reste?
Ben, rien ou tout. Rien où il reste l'abondance.
C'est exactement ça, Pascal, il reste l'abondance. C'est impossible d'enlever l'abondance de l'abondance. C'est abondant, c'est infini. Fait que quand on pense en mathématiques, tu sais, quand on pense 6 moins 6 égale quoi à zéro? Ben oui. Mais si je te dis j'enlève l'infini de l'infini, il reste quoi? Ben il reste l'infini, c'est l'infini. Si j'enlève l'abondance de l'abondance, il reste quoi? Il reste l'abondance. Fait que notre cerveau réfléchit tout le temps entre notre cerveau, il est binaire. Il n'a ou il n'a pas. C'est 0, c'est 1, c'est 0, c'est 1. Parce qu'on est dans un concept qui est au-delà du corps. Le corps humain, là, il est limité. On a deux yeux, un nez, une bouche. Bon, il y a des gens qui ont juste un œil. On comprend le principe, là. Le modèle de base d'un humain, c'est deux yeux, un nez, puis une bouche, deux oreilles. Le corps humain est limité. Puis à certains égards, le cerveau, il l'est aussi. Mais l'abondance, c'est illimité. Fait qu'à partir du moment où on rentre ça dans nos cellules, toutes les cellules de notre corps, on est capable de commencer à se détendre puis à défaire des croyances comme « c'est mal de vouloir de l'abondance financière » ou « je ne mérite pas, je ne suis pas assez une bonne personne ». On va arrêter de m'aimer si j'ai trop
d'argent.
Donc,
à toi qui nous écoutes, si tu as réagi intérieurement, si tu as eu un petit quelque chose qui a dit oui, effectivement, être riche ou avoir de l'argent, ça va me, tu sais, je vais devenir une mauvaise personne ou je vais perdre des amis ou je vais me faire juger ou, ben, déjà en partant, en ayant cette croyance-là, ça va te bloquer. C'est quasiment impossible que tu deviennes abondant parce que tu vas te protéger en quelque sorte.
Oui. D'autres que j'entends souvent, c'est l'argent, c'est associé à pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ceux qui ont de l'argent, ils ont du pouvoir sur les autres. Ça rend les gens mauvais ou ça nous donne envie d'abuser du monde. On est tous dans la catégorie méchant, pas correct, pas une bonne personne. Mais si on regarde un peu comment que le monde fonctionne, pas besoin d'avoir de l'argent. Si quelqu'un veut abuser de d'autres personnes, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour ça. Il y a bien d'autres manières. Si tu décides d'abuser d'une personne puis d'avoir du pouvoir sur une personne, il y a énormément d'autres moyens que celui de l'argent.
Oui, effectivement. Moi, je pense que je l'ai déjà eu, cette croyance-là, puis il y a un certain temps, je l'ai travaillé pour mettre à la place, ben, l'argent, c'est juste un amplificateur. C'est du pouvoir. Donc, si je suis une bonne personne, je vais être encore plus une bonne personne. Puis si je suis une mauvaise personne, ben, je vais avoir encore plus de pouvoir à être une mauvaise personne.
Mmh. Fait que
Ça
toi,
fait-tu plus
c'est
de
ça, c'est
sens?
quand tu dis, ben, si ça fait du sens pour toi, là, on est dans le domaine des croyances. Quand tu dis que l'argent, c'est un amplificateur, si cette croyance pour toi, elle te sert, elle te fait sentir bien, elle te fait sentir bien. Mais quand il y a un atelier que j'offre sur la relation avec l'argent, en partant, la première question que je pose aux gens, c'est quoi de l'argent? Puis là, j'entends toutes sortes de réponses. Je laisse le temps aux gens de répondre. Puis là, regarde, si tu avais été dans la salle, tu m'aurais peut-être dit c'est un amplificateur. Si je suis déjà bon, je vais être encore plus bon. Si je suis déjà mauvais, je vais être encore plus mauvais. Mais quand on regarde ça froidement, juste les faits, Pascal, l'argent, c'est un moyen d'obtenir des produits puis des services maintenant puis dans le futur.
Ouais, c'est un outil.
C'est un outil, c'est un moyen. On a décidé que c'est de même que ça marchait. C'est très commode parce que je ne me verrais pas. Je viens d'arriver de voyage. Là. Je ne sais pas comment j'aurais payé mon voyage si ça n'avait pas été avec de l'argent. J'avais donné des cochons puis des vaches. Puis,
Ouais, c'est ça.
je me serais pas vu transporter mes cochons dessus du bras à l'aéroport puis dans l'avion. Bref, c'est un moyen qui est commode. Quand on y pense, il simplifie au maximum. Puis même aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'avoir du papier. On peut juste avoir même plus besoin d'avoir une carte électronique, on a notre téléphone dans lequel les cartes de crédit sont enregistrées ou les cartes de débit sont enregistrées. Bref, c'est un moyen, c'est un outil pour avoir des biens puis des services, maintenant puis dans le futur.
Parfait. En terminant, parce que le temps passe quand même assez vite, ça fait déjà presque 45, puis c'est à peu près là où je voulais arrêter, 45 minutes, mais qu'est-ce que tu penses des croyances qui sont encore plus inconscientes, mais qui se transfèrent de génération en génération? On va appeler ça le psychogénérationnel en fonction de ce que, si je regarde, moi, mes grands-parents qui ont vécu la guerre, puis les gros effondrements économiques qui ont été extrêmement pauvres, à quel point ça impacte ça jusqu'à moi, mettons.
Ouais. Écoute, ce que j'en sais, parce que j'ai étudié un peu l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la science qui étudie les gènes qui s'activent ou qui se désactivent. Puis ce qu'on appelle les mémoires.
Donc, on reprend l'enregistrement. Ça avait déconnecté. Je vais juste faire un petit montage avec ça. Donc, je te posais la question concernant, on va appeler ça les croyances, mais qui se véhiculent vraiment de façon très inconsciente à partir du transgénérationnel. Moi, en 2022, je me suis beaucoup posé la question là-dessus et je sais que mes deux grands-parents, particulièrement mes deux grands-mères, en ont arraché beaucoup. Ils ont eu la période de la guerre, la période du crash boursier et tout ça. Puis l'argent, tu sais, j'ai même lu une vieille lettre de ma grand-mère à un de mes oncles où elle disait comment que l'argent, c'était dur à gagner, puis de faire attention et tout ça. Et je remarque que mes parents, moi, même s'ils ont vécu dans une grande abondance, hein, les baby boomers, ils l'ont eu là-dessus quand même un peu facile, ils ont eu toujours peur de manquer. Mon père était un accumulateur compulsif. Donc, si tu peux me dire un peu comment ces croyances-là, on peut les défaire quand même.
Fait que j'aimerais ça distinguer croyance de
OK.
trauma. Parce qu'une croyance, ça se construit avec le langage, puis ça se déconstruit avec le langage aussi. Il faut avoir entendu ou minimalement pensé à quelque chose. Fait que le langage, ça peut être le langage interne, notre narratif, ou ça peut être des choses qu'on a entendues puis on a décidé que c'était vrai. Fait qu'on se l'est approprié. Fait qu'une croyance, c'est obligatoirement construit avec le langage. Fait que ça ne pourrait pas, dans ce cas-ci, être des croyances transgénérationnelles qui sont comme arrivées dans le cordon ombilical, parce que les mots n'arrivent pas dans le cordon ombilical. Par contre, on sait avec l'épigénétique, la science qui étudie l'activation des gènes, quels gènes sont actifs à l'intérieur d'une personne, puis quels gènes ne sont pas actifs. Tu sais, comme on sait très rapidement qu'il y a des gens qui portent des gènes qui pourraient être activés et créer un cancer ou pas. Avec l'épigénétique, on sait que les traumas, la mémoire des traumas peut passer dans le cordon ombilical. Ce qui fait que quelqu'un qui a manqué cruellement de nourriture, qui a connu la famine, qui a connu des agressions, son corps porte, son ADN a été transformé suite à ça, suite à ses traumas, ses expériences traumatisantes. L'ADN, lui, peut être transmis dans le cordon ombilical, mais ça ne veut pas dire que dans l'ADN, le gène va être activé pour la personne. Fait que tu peux avoir un grand-parent qui a connu la famine, puis a eu de nombreuses journées à pas manger à sa faim. Ça ne veut pas dire que ses enfants vont pour autant surmanger. Ça se pourrait que le gène ne s'active pas. Fait qu'il y a vraiment deux grandes catégories. Tu as le trauma, la mémoire du trauma qui est encodée dans l'ADN. Tu as les croyances. T'sais. Fait que tes parents, ton père qui a accumulé, c'est peut-être parce qu'il a entendu ses propres parents parler de l'argent est dur à gagner, fais attention mon petit gars, tu pourrais tout perdre. Fait que ça, la croyance, ça s'est construit avec le langage, puis son comportement, il a suivi.
Parce que je le vois beaucoup chez mes oncles, mes tantes, je veux dire. Ils ont de l'argent, mais le papier de toilette vient en spécial, ils bourrent l'armoire. Puis t'en as quasiment pour l'année. Ça fait pas de sens.
Ouais. Parce qu'ils ont tous acheté les croyances de pauvreté des parents. Fait qu'il peut y avoir l'effet combiné d'un vrai trauma, une vraie mémoire traumatique dans l'ADN. C'est possible. Mais là, ça serait pas une croyance. Ça serait un trauma d'avoir manqué de nourriture ou d'avoir manqué
de papier de toilette. Et ce trauma-là, d'après toi, même s'il nous appartient pas, si on peut le porter dans l'ADN, est-ce que ça se nettoie?
Oui, avec l'épigénétique, oui, on peut consciemment désactiver. Puis là, avec la pleine conscience, la méditation, on peut parler à notre ADN, on peut commander notre ADN. Commander dans le sens que j'indique à mon ADN de quelle manière je veux qu'elle se modifie. Là, je ne suis pas une experte là-dedans, puis je ne veux pas m'avancer dans des coins que je ne suis pas capable de répondre au complet avec certitude. Mais pour avoir moi-même été dans des séminaires où est-ce qu'on m'enseignait à parler à mon ADN, à parler à mes télomères, ça c'est de la longueur des brins d'ADN, des gènes plutôt, pardon, apparemment tout ça peut se modifier. Mais déjà d'être conscient que ça ne nous appartient pas, que arrière-grand-mère a peut-être perdu deux enfants de la famine puis ça l'a attristé au bout. On peut désactiver quelque chose qui est à l'intérieur de nous, puis on peut désactiver un gène qui est actif par la simple pensée. C'est ce que l'épigénétique nous enseigne.
Pensée et émotion. Mais dans tous les cas, ça demande énormément de conscience, beaucoup d'observation consciente, et pourquoi pas consulter des personnes qui peuvent un petit peu plus nous aider à mettre la lumière au bon endroit à l'intérieur de nous, parce que comme je disais tantôt, même bien équipé, même avec bien de l'expérience, le faire pour soi-même, il y a quand même certaines limites à arriver à voir clair dans notre monde.
Oui. Puis, si tu me permets, là, 20 secondes, pour moi, là, ce qu'on vient de discuter, c'est pas une fatalité, dans le sens que les gens peuvent dire « Oh my God, my God, my God, je suis pas bien avec des traumas. » Puis là, on peut se sentir encore plus impuissant qu'on se sentait avec nos propres croyances. On en a bien assez de nos propres croyances puis nos propres patterns. Faut-tu en plus que j'aille régler ceux de la troisième arrière-grand-mère de la fesse gauche que j'ai jamais connue? Non. Parce que tout ce qu'on règle ici, tout ce qu'on devient conscient de, tout ce qu'on optimise, peu importe l'origine d'où ça venait, on a eu une conversation là-dessus, toi et moi, récemment, peu importe l'origine, à partir du moment où on dit « c'est pas comme ça que je veux vivre, mais c'est ainsi que je veux vivre », cette décision-là, prise de manière consciente, a préséance sur tout le reste.
Ouais, comme je dis souvent, peu importe d'où ça vient, tu le portes, donc tu l'as ici, maintenant, puis il y a de quoi faire, puisque tu le portes, donc tu y as accès. Good! Hey, merci beaucoup, Caroline. C'était super intéressant d'avoir d'autres versions des croyances expliquées dans d'autres mots avec différents exemples. Les gens qui voudraient en savoir plus sur toi, ben, excusez mon chat dans la gorge, je vais mettre... tes liens, dans le fond, que tu vas me donner, site Internet, peut-être page Facebook et tout ça, ça va être en description de l'épisode, soit sur YouTube, soit là où vous l'écoutez, Apple Podcasts, Spotify, etc.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, ce fut un plaisir et nous, on se revoit bientôt. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode-là, que ça l'a éveillé des lumières en toi. Comme d'habitude, si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage autour de toi. Si toutefois, tu te dis « Hey, moi, j'ai envie de déprogrammer, j'ai envie de défaire ces croyances-là qui peuvent me limiter au niveau de l'argent », je t'invite à me contacter ou à contacter Caroline pour faire un petit travail là, de reprogrammation de ton architecture mentale. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté cet épisode-là et je te dis à bientôt pour un autre épisode.